we will go on after the second talk. Oui, on continuera les questions après, parce que le... Non, tu n'auras pas oublié, je suis sûre que tu n'auras pas oublié. Donc nous allons armer Manfred de son micro. Et pendant ce temps-là, je vais donner quelques mots d'introduction. Bien, notre deuxième intervenant, donc Manfred Lesgourg, est agrégé de lettres classiques depuis 2012. Il est passé par l'École normale supérieure en sciences de l'Antiquité. Et en 2019, il a présenté à l'Université de Nanterre, sous la direction conjointe de Christelle Muller, professeure à Nanterre, et de Pierre Bonnechère, professeur à Montréal, une thèse de doctorat sur ce dont il va nous parler cet après-midi, à savoir la construction de la parole oraculaire dans les sanctuaires du même nom, par le biais de toute une série d'agents, humains ou non humains. L'agentivité des objets est devenue un point d'intérêt aujourd'hui dans nos études. Et donc, c'est précisément la question de l'autorité qui est à l'œuvre dans la construction de cette parole oraculaire qui sera au cœur de l'intervention de Manfred, dont je dirais, pour terminer, que depuis septembre 2020, il m'a rejoint dans le cadre de ma chaire ici au collège comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc nous collaborons de près et j'espère que le livre tiré de la thèse pourra paraître dans un délai rapproché, puisque ce sera dans les suppléments de Kernos dont j'ai la direction. Donc voilà, je passe directement la parole à Manfred et nous aurons donc une discussion conjointe après son intervention. Merci Manfred, la parole est à toi.
Merci beaucoup Vinciane pour cette présentation et cette invitation à parler ici devant vous dans une institution où j'ai le plaisir à travailler depuis bientôt 2 ans. Faut que je parle plus fort ? Pour Stella, je parlerai fort. Dans la mesure où au Collège de France, on commence à l'heure, j'en reviens sans plus attendre à mon propos, après vous avoir indiqué tout de même que les textes auxquels je vais me référer sont à retrouver dans l'exemplier qui a dû circuler et que vous pourrez vous appuyer aussi sur le diaporama pour suivre l'exposé. Dans sa République idéale, Platon fait soutenir à Socrate qu'en ce qui concerne les normes religieuses de la cité, c'est l'autorité de l'oracle de Delphes qu'il convient de suivre pour dicter les plus importantes, les plus belles, les premières des lois, nomothétémata. Même si ce discours normatif platonicien constitue une construction intellectuelle, utopique, il n'en rappelle pas moins que pour les Grecs, le recours aux oracles pouvait apparaître comme le moyen par excellence de légiférer en matière de religion. Le meilleur moyen d'obtenir l'assentiment des dieux revenait en effet très simplement à les interpeller directement et à s'appuyer sur leurs réponses. Une telle appréhension du phénomène oraculaire repose néanmoins sur une ellipse. Entre le dieu et celui qui l'interrogeait, les rites antiques instituaient dans les faits toute une série d'intermédiaires et d'agents qui avaient pour fonction de construire non seulement un énoncé verbal attribué à la divinité, mais aussi l'autorité qui l'accompagnait. Mon projet initial pour aujourd'hui était de m'attarder sur la somme des actions qui pouvaient conférer dans le rite antique aux oracles leur autorité et de la relier aux différents agents qui les accomplissaient. Néanmoins, la matière étant vaste et le temps qui m'est alloué étant généreux mais pas extensible à l'infini, j'ai finalement décidé de ne m'attarder aujourd'hui que sur un seul de ces agents et la part d'autorité qu'il peut conférer à l'oracle, le prophète, prophétesse. Cela ne veut évidemment pas dire que toute l'autorité de l'oracle procède de sa fonction, loin de là, mais il contribue à sa façon à rendre l'énoncé divin légitime. Le terme de prophète, disons-le tout de suite, est aussi évocateur qu'il peut être trompeur. Depuis qu'il a été choisi par la Septante pour traduire celui de Nabi, il occupe dans l'imaginaire occidental judéo-chrétien une place à part. Dans nos esprits, le prophète est celui qui transmet directement le message, voire la parole de Dieu. Il est de ce fait dépositaire d'une certaine autorité religieuse, lié au fait qu'il a été choisi par le divin pour entrer en contact direct avec lui. La situation dans les sanctuaires oraculaires grecs est, on va le voir, tout autre, notamment parce qu'un prophète n'est pas un agent inspiré par le dieu, il n'est pas celui qui est entéos. Il n'en reste pas moins que si les rédacteurs de la Septante ont choisi ce terme, c'est qu'il devait connoter ce qu'il y avait de plus proche de l'idée de Nabi pour désigner une figure d'autorité religieuse en contact avec le divin. Je vous propose donc ici d'essayer de nous demander quel pouvait être le rôle que jouait le prophète grec dans les différents rites antiques qui nous sont connus et la manière dont ces actions participaient à la production d'un énoncé divin qui pouvait faire autorité. Pour ce faire, je me référerai à une série de sanctuaires oraculaires grecs où cette fonction est attestée entre l'époque archaïque et l'époque impériale et dont vous pouvez voir la carte projetée aux plus célèbres d'entre eux comme Delphes, Didyme ou Claros. S'ajouteront aussi d'autres institutions plus confidentielles comme celle d'Apollon Deiradiotès à Argos ou d'Apollon Coropaios à Coropée. Nous verrons dans un premier temps que le prophète est bien distinct de l'agent inspiré dans le rite et ne tire donc pas son autorité de l'octorialité de l'énoncé divin. Mais ces deux agents, dont les noms et les verbes afférents sont souvent proches, partagent tout de même la responsabilité de transmettre la parole du Dieu. Les sources littéraires semblent en effet définir le prophète comme un médiateur et un interprète de la parole divine qui redouble l'interface avec le divin que pouvait représenter l'agent inspiré. Ce qui nous amène au paradoxe social suivant. Alors que la fonction de prophète ne semble demander aucune expérience et ne s'ancre pas dans le temps, elle confère à celui qui l'assume une autorité religieuse réelle qui dépasse le cadre du rite antique. Ambassadeurs, certains prophètes continuent alors d'assumer une charge de porte-parole particulière en dehors même de la cité. On ne retrouve pas la mention d'une charge de prophète dans tous les sanctuaires oraculaires du monde grec. Certains rites de grands oracles, comme ceux de Trophonios à Lébadée et d'Amphiaraos à Oropos, n'ont pas besoin d'agent médiateur de la parole du dieu, dans la mesure où la révélation qui reçoit le consultant est directe et personnelle. À ce titre, l'étymologie du terme « prophétesse », littéralement « celui qui parle », « phanai », en place « pro » du dieu, en fait bien, comme le soulignait Stella Jorgoudi, un porte-parole du dieu. Le prophète est toujours le porte-parole d'une divinité et se trouve par là lié à un sanctuaire précis. Son titre le lie également à un type de divination qui est toujours verbal et permet la délivrance d'un énoncé, l'oracle. Mais dès lors que l'on cherche à savoir ce que parler au nom du dieu veut dire et quel pouvait être le rôle exact du prophète dans le rite oraculaire, les choses sont moins claires. Il est en effet assez rare, lorsque nos sources nous permettent de reconstituer un rite oraculaire, que le prophète ne soit pas accompagné d'un autre agent cultuel, que nous appellerons ici l'agent inspiré, et que les sources désignent par divers noms. À Delphes, la Pythie, à Didyme, la prophétisse, à Claros, le Thespiodos, etc. Dans ces histoires, Hérodote distingue chez le peuple des sâtres, les bessoi, prophétoantes, les bessoi qui remplissent la charge de prophète, et une promantis, une prophétesse inspirée. On trouve encore cette distinction dans l'oracle d'Apollon Deiradiotès, qui se trouvait à Argos. Deux inscriptions permettent de restituer aux côtés de la promantis inspirée deux promanties qui remplissent de manière collégiale le rôle de prophète. On pourrait penser que l'oracle de Glycon à Abonoteikos constitue une exception, dans la mesure où aucun agent inspiré n'accompagne le prophète fondateur du culte, Alexandre. Mais la situation est un peu différente parce que ce dernier sanctuaire, nous dit Lucien, se présentait comme abritant une incarnation animale du dieu lui-même qui était en mesure d'articuler ses propres énoncés. Inutile dès lors de recourir à un agent inspiré pour être la voix du dieu. On voit donc que cette duplication des agents qui portaient la parole du dieu n'a donc rien d'anecdotique ou de local. Elle montre qu'il existait deux fonctions distinctes dans les rites de ces sanctuaires et que celles-ci se trouvaient en général assumées par deux personnes différentes. Cette dualité de l'activité prophétique au sein des sanctuaires oraculaires les mieux documentés amène plusieurs remarques. Tout d'abord, en dehors du sanctuaire de Claros, où c'était un homme qui occupait les fonctions viagères de Thespiode, les femmes, qui étaient les agents inspirés de Delphes, Didyme et Argos, ne sont que très peu attestées d'un point de vue épigraphique. Malgré son prestige littéraire, la Pythie n'est mentionnée dans le vaste corpus de Delphes que deux fois, et dans les deux cas au IIIe siècle de notre ère. La situation est identique à Didyme, où l'on n'a retrouvé que deux inscriptions tardives mentionnant une prophétisse et une promantis, toutes deux d'époque impériale. L'attestation argienne, mentionnée plus haut, est unique. On ne peut donc pas exclure que dans certains sanctuaires oraculaires mal documentés, où l'on ne trouve que l'attestation d'un prophète, comme c'est par exemple le cas à Koropé, en Thessalie, il n'existait pas à ses côtés un agent inspiré que la documentation épigraphique aurait laissé dans l'ombre. Après tout, le néocor du même sanctuaire n'est pas cité dans le décret qui mentionne le prophète de Koropé, mais uniquement dans celui qui le suit sur la pierre, ce qui montre bien que la liste du personnel du sanctuaire n'y est pas exhaustive. Dans des cas où ce dédoublement n'est pas avéré, il peut donc être supposé. Ce dédoublement pose, pour reprendre les termes de Jean-Louis Ferrari, un problème de répartition des rôles. Dans la mesure où nous nous retrouvons dans chaque sanctuaire avec deux porte-paroles des dieux, le prophète et l'agent inspiré. Ainsi, certains historiens ont été tentés de faire des prophètes de Delphes des personnages contrôlant les discours de la pitié, soit pour donner forme à ce qui aurait été un murmure inaudible, soit pour lui faire dire ce qu'il convenait de proclamer. Cette théorie s'appuiera principalement sur la différence de genre entre les femmes inspirées et les prophètes masculins, mais échoue à rendre compte du fait qu'alors que les charges des premières étaient le plus souvent viagères, et donc permettaient d'accumuler expérience et autorité, les secondes n'étaient jamais qu'annuelles et ne semblaient pas demander une expertise particulière. Du reste, à Claros, c'était aussi un homme, le Thespiode, venant d'une famille importante qui était l'agent inspiré du rite. Une telle situation a amené certains historiens à se demander en retour si la charge de prophète n'était pas simplement une charge honorifique, sans fonction réelle à l'intérieur du rite. Mais si tel avait été le cas, comment expliquer que cette charge ne soit jamais vacante ou confiée simplement aux dieux, comme cela pouvait être le cas à Milet de la fonction de Stéphane Effort ou à Colophon de celle de Pritane? D'autres historiens encore ont voulu rabattre la fonction de prophète sur celle du prêtre du dieu, ce qui semble fonctionner pour les oracles de Didyme et d'Abonoteikos. Mais dans tous les autres sanctuaires, les fonctions de hiéreuse et de prophète sont distinctes, même si elles peuvent exceptionnellement être cumulées, comme c'était le cas à Claros. On voit donc que la charge de prophète est suffisamment importante dans le rite mantique pour qu'il ne semble pas possible d'en faire l'économie. Mais qu'elle se trouve pour autant distincte de celle de l'agent inspiré, qui, saisi par un état d'enthousiasmos, était celui qui était en charge d'articuler le message divin. Ce n'est donc pas au moyen d'une fonction d'auteur que le prophète conférait à l'oracle son autorité. Mais alors, quelle pouvait bien être la fonction du prophète? Admettons-le d'emblée, il n'est pas sûr que cette question puisse recevoir une réponse ferme et définitive en l'état actuel de notre documentation. En effet, si l'agent inspiré a été l'objet de toutes les attentions littéraires dès l'Antiquité et que l'on comprend bien qu'il soit celui à qui il revient d'articuler le message divin, l'activité des prophètes dans le processus de la consultation est si peu éclairée par nos sources que l'on a pu douter de leur existence dans certains sanctuaires, comme c'est le cas à Delphes. La piste la plus naturelle pour comprendre quelle pouvait être l'activité d'un prophète consiste à regarder quel sens peut avoir le verbe qui dérive du substantif désignant cette fonction, à savoir le verbe « prophéto ». Une telle recherche, cependant, est assez décevante. On trouve moins d'une vingtaine d'occurrences du verbe en contexte païen dans les sources littéraires allant de Pindare à l'empereur Julien, et la majorité d'entre elles, dans un usage absolu et intransitif, veut seulement dire « remplir la fonction de prophète », sans plus de précision. De plus, les occurrences les plus significatives semblent faire signe vers le rôle de l'agent inspiré, qui était la prophétisse, et non de sa contrepartie masculine, qui avait une fonction tout autre. Le verbe ne désigne qu'une seule fois le fait d'être une prophétesse, c'est-à-dire un agent institutionnel inspiré. On le trouve chez Pausanias, à propos de l'oracle d'Apollon d'Eiradiotès, à Argos, dont on sait que la prophétesse se trouvait accompagnée par deux prophètes masculins. Il vise peut-être ici à appuyer le caractère institutionnel du rite. Les emplois transitifs du verbe lui donnent le sens général de transmettre la parole divine. Ainsi, dans un fragment du Mélanippe enchaîné d'Euripide, des personnages féminins réclament la première part des honneurs parce que « en phoibou tegar kresmois propheteu sin loxios phrenagunaikes » les femmes expriment les pensées de Loxias dans les oracles de Phoibos. Et dans Lyon, le personnage principal explique à Créuse, à la recherche d'informations qui pourraient compromettre le dieu, que « ou questinostis soi prophetosei tade, personne ne te prophétisera cela. Aucun de ces deux exemples ne permet vraiment d'aller au-delà de l'idée d'une transmission de la parole du Dieu par une instance d'autorité mentique, même si la dernière semble esquisser qu'il existait une responsabilité dans le fait de rendre un oracle. Restent quatre exemples plus philosophiques. Malheureusement, aucun d'entre eux ne permet vraiment d'aller plus loin que l'idée du passage d'une connaissance du divin vers l'humain. Les deux plus anciens sont, pour ne rien arranger, métaphoriques et désignent l'état de mania et l'âme. Platon explique ainsi que « E mania engenomene kai prophetosassa ois edei apalage eureto ». La mania s'étant déclenchée et ayant servi de prophète pour ceux qui en avaient besoin, a trouvé une solution. Tandis que chez Aristote, « Egun psyche teio psyches omatita teia katalabomene toiste anthropois prophetousa », l'âme, donc, ayant saisi de son œil divin les choses divines, a servi de prophète aux hommes. Dans sa théorie matérialiste de l'inspiration, Plutarque utilise une fois le terme pour expliquer que si les facultés humaines se trouvent bien accordées à l'état dans lequel se trouve le souffle divin, entois prophetousin ananke ginestai ton enthousiasmon. Il est nécessaire qu'il y ait enthousiasme chez ceux qui prophétisent. Encore Philostrate enfin, mais dans la bouche d'un admirateur d'Apollonius de Tyane, des considérations sur l'importance d'être pur pour celui qui se fait prophète. Encore une fois, la réalité que recoupe le terme est assez large. Il s'agit de thématiser le lien que la divination permet d'établir entre les hommes et les dieux à travers un prophète ou un agent inspiré. D'un point de vue épigraphique, la moisson peut paraître plus importante, mais le terme a systématiquement le sens d'endosser la charge de prophète, que ce soit à Didyme, à Claros ou encore à Adrianoï, au nord de la Phrygie. L'approche verbale de la fonction de prophète apparaît donc comme une impasse pour distinguer l'action du prophète de celle de l'agent inspiré. La plupart des occurrences tendent à souligner soit qu'il existait une complémentarité entre ces deux agents, soit que la charge de prophète conférait bien un statut particulier, reconnu à travers le monde grec, et d'où pourrait être tirée une certaine autorité. La deuxième approche pour essayer de comprendre quelles pouvaient être les fonctions du prophète au sein du rite oraculaire consiste à chercher dans les contextes où le terme se trouve employé d'autres informations sur les activités qui pouvaient être les siennes. Disons-le tout de suite, aucune des sources antiques ne présente de manière explicite quel pouvait être ce rôle. Tout au plus, pouvons-nous reconstituer des pôles d'activité auxquels les représentations culturelles des anciens associaient les prophètes de manière plus ou moins stable dans le temps. Ce n'est donc qu'à la figure imaginaire du prophète que nous avons accès. Figure qui peut avoir été l'objet d'interprétations singulières chez les différents auteurs qui nous intéressent et dans différents contextes culturels. Celle-ci apparaît structurée autour de deux activités distinctes. Une première de communication de la parole de Dieu et une seconde d'interprétation des arrêts divins. Ces deux axes de lecture de la fonction prophétique appellent une autre précaution d'ordre méthodologique. Il est en effet essentiel à la bonne compréhension de la fonction de prophète de ne pas projeter sur ses activités des idées préconçues sur la divination antique. On évitera ainsi de déduire que le fait qu'on ait pu interpréter des oracles signifiait qu'en général, les messages divins n'étaient pas clairs. Que l'utilisation de plusieurs agents pour relayer la communication divine dans le rite s'explique par la nécessité de modifier en plusieurs étapes la forme de l'oracle, ou encore qu'un agent cultuel doive nécessairement avoir passé une longue période de temps dans une fonction pour être perçu comme un expert religieux susceptible de répondre aux interrogations des fidèles. Ces idées sont pleines de bon sens, mais tout rite possède une part d'arbitraire qui le légitime comme divin, précisément parce qu'il contrevient au bon sens. Il s'agit donc d'établir principalement ce que les sources nous disent des fonctions de prophète. Sans surprise, le prophète, qui appartient à des sanctuaires où se déroulent les rites divinatoires, intervient tout d'abord dans la mise en place de la communication avec le dieu. Néanmoins, le rôle exact qu'il joue dans cet échange n'est jamais vraiment clair. Les informations les plus directes que nous ayons concernent des oracles où les questions posées à la divinité se trouvaient mises par écrit. À Abonoteikos, les deux seuls moments du rite que nous décrit Lucien sont ceux de la remise de la question cachetée à Alexandre, qui l'emportait ensuite dans l'Aditon, et de la restitution par le même prophète du papyrus où avait été ajoutée la réponse. Cette pratique fait écho à un autre extrait du Satiriste, à la fin de l'Ami du mensonge, où le superstitieux Eucrate décrit la consultation de l'oracle de Malos en ces termes. Cet oracle rend des oracles clairs, répondant mot pour mot aux questions que l'on transmet aux prophètes après les avoir écrites sur une tablette. Malgré le caractère satirique de l'extrait, rien ne permet de discréditer totalement la parole de Crate dans cette description. Aucun de ces éléments, présenté comme factuel par un homme certes superstitieux, mais qui se veut un expert des choses sacrées, ne semble incorrect. Dans les deux cas, le prophète se présente comme celui auquel on adresse en remettant une requête écrite pour le dieu. Il s'agit donc d'une charge d'intermédiaire. Comme l'a cependant très bien souligné Mathieu Labadie, Lucien rapporte à ses lecteurs que le fondateur du sanctuaire dédié à Glycon s'était inspiré du fonctionnement de l'oracle de Malos pour, dit-il, mettre en scène des consultations truquées dans son temple d'Abonotheikos. Il ne serait pas impossible cependant que ce trait de l'activité du prophète ne soit propre à ces deux sanctuaires, bien que la description par Tacite du rite oraculaire de Claros s'en rapproche. Mais ces sources montrent surtout que transmettre le message peut être tout aussi important que de le produire. Plusieurs parallèles amènent cependant à penser que le prophète était le récipiendaire des questions posées par les consultants dans plusieurs sanctuaires oraculaires. Le premier est un passage des histoires d'Hérodote, où les habitants d'Abolonia d'Illyrie viennent consulter les oracles de Delphes et de Dodone après que leur bétail a cessé de se reproduire et leur terre de porter des fruits. Et Hérodote nous dit « Des oracles leur furent rendus à Dodone et à Delphes, comme ils demandaient aux prophètes, prophétas, quelles étaient la cause de leurs maux présents. » L'utilisation du masculin, les prophètes, pour désigner Dodone et Delphes, est assez surprenante. Celui-ci semble se justifier par un pluriel comprenant à la fois le prophète de Delphes et l'agent qui lui servait d'équivalent à Dodone, vraisemblablement l'une des prêtresses. Hérodote aurait par là rappelé que ce n'était pas directement à l'agent inspiré que s'adressaient les consultants, mais au prophète. On retrouve ici ce rôle d'intermédiaire. L'autre exemple, plus indirect, est celui du règlement de l'oracle d'Apollon Coropaios dans les environs de Démétrias, dont vous avez un extrait dans l'exemplier. Dans ce texte, le secrétaire du dieu fait entrer un à un les consultants dans le temple où se trouvent les magistrats et prêtres de la cité, apodokomenoi tapinakia paraton montomenon, qui reçoivent les tablettes de ceux qui consultent l'oracle. Or, parmi ces dignitaires se trouve le prophète ou prophétesse du sanctuaire. Si, comme je le pense, la présence des magistrats de la cité relève bien davantage de la cérémonie, du cérémonial que du rituel, on peut avancer l'hypothèse qu'ici aussi, le prophète avait un rôle d'intermédiaire dans la transmission du message divin et que c'était avant tout à lui qu'étaient remises les questions des consultants. En amont de la révélation, il semble donc que le prophète ait pu servir d'intermédiaire entre le consultant et l'agent inspiré de la révélation. Les attestations du prophète en aval de la révélation sont tout aussi problématiques et manifestent la plupart du temps des particularités locales. Dans le cas des oracles écrits, seul nous est parvenu le témoignage du rôle d'Alexandre d'Abonotheikos lorsqu'il rend les réponses rédigées par écrit. La plupart du temps, lorsque la Pythie rend ses oracles, les auteurs anciens la présentent comme s'adressant directement au consultant sans qu'il soit besoin d'un prophète pour relayer sa parole. Mais encore une fois, il pourrait s'agir d'une ellipse. L'épisode de la consultation de l'oracle d'Apollon Ptoios par Mys, qui met par écrit « Ta legomena upotu propheteo », ce qui a été proféré par le prophète, représente le seul cas de divination inspirée à ma connaissance où le prophète, s'il est distinct du Probantis dans ce texte problématique, est représenté comme répétant les mots d'un agent inspiré lors du rite, sans en modifier la forme, et sans que le premier énoncé, entendu par le consultant, soit modifié. Mais cette répétition par le prophète pouvait aussi porter en elle sa propre autorité. En étant repris, donc par le prophète, les mots de l'agent inspiré auraient en quelque sorte fait l'objet d'une validation institutionnelle, sans laquelle l'oracle n'aurait pas eu le même poids, et sans non plus qu'il n'ait été nécessaire de modifier les mots de la prophétesse ou de l'agent inspiré. Soulignons également que les théories selon lesquelles les oracles auraient été énoncés par l'agent inspiré puis mis en vers par les prophètes ne reposent sur aucune source ancienne tangible. Le rôle exact que remplissait le prophète dans la communication avec le dieu semble donc ici un peu s'éclairer. C'était vraisemblablement à lui que le consultant s'adressait, oralement ou par écrit, pour transmettre de manière rituelle ses interrogations au dieu, mais on ignore de quelle manière le message se trouvait ensuite communiqué à l'agent inspiré, qui pouvait tout aussi bien être présent aux côtés du prophète. L'important ici est son rôle rituel d'intermédiaire. Rien ne permet d'indiquer de façon sûre, ni d'exclure, que le prophète ait eu un rôle similaire dans la transmission du dit message divin au consultant. Si tel était le cas, le prophète aurait alors eu une fonction d'interface avec le divin, présentifiée dans l'état d'enthousiasme de l'agent inspiré, et d'homologation institutionnelle du message du dieu. Loin d'être inutile, il aurait alors octroyé un surcroît d'autorité à l'oracle, lui-même, dans une démarche formaliste, propre au rite. La deuxième activité à laquelle est associé le titre de prophète dans notre documentation est celle d'interprète de la volonté des dieux. Cette idée se trouve principalement développée dans le corpus platonicien qui fait dans le Timée la description suivante de la fonction de prophète. Voici une preuve suffisante que c'est à la partie déraisonnable de l'homme que le dieu a fait présent de l'art divinatoire, mantique. En effet, personne n'atteint à un art divinatoire divin et vrai quand il est en pleine possession de son esprit, ennous. Cela n'arrive au contraire que quand la puissance de l'esprit humain se trouve entravée par le sommeil ou la maladie, ou lorsqu'elle se trouve altérée par l'état d'enthousiasme, diatina enthusiasmon parlatsas. A l'inverse, il appartient à l'homme dans son bon sens de méditer d'une part, après qu'elles ont été rappelées, les choses qui ont été énoncées, dans un état de veille ou de sommeil, sous l'influence d'une nature mantique et enthousiaste, et d'analyser au moyen de la logique toutes les visions qui sont apparues pour savoir ce qu'elles signifient et pour qui elles sont le signe d'un bien ou d'un mal, qu'elles concernent l'avenir, le passé ou le présent. C'est pas fini. Tant que celui qui est dans un état de mania reste dans celui-ci, sa tâche n'est pas de juger ce qui lui apparaît ou ce qu'il entend. Le vieux dicton est bon qui dit que ce n'est qu'à celui qui est dans son bon sens qu'il convient de mener à bien et de connaître ses affaires et sa personne. C'est la raison pour laquelle la loi a établi la corporation des prophètes, toton propheton genos, comme juge des oracles inspirés. Certains les appellent devins, manteis, en ignorant complètement que ceux-ci sont les interprètes des visions et des énoncés par énigmes, et ce n'est pas devins, mais prophètes des déclarations oraculaires, prophetae de manto menon, qu'il faudrait les appeler en toute justice. Cette définition, l'une des plus longues et explicites que l'on ait conservée sur le rôle du prophète, mais aussi l'une des plus générales, mérite qu'on lui prête attention tout en l'abordant avec précaution. Loin de constituer une description objective des pratiques mantiques, il s'agit bien en effet d'une démonstration philosophique, dont la finalité est de justifier le bien fondé d'un système de valeurs qui est celui de Platon. Il est donc nécessaire d'essayer de distinguer ce qui dans ce texte relève de l'axiologie platonicienne, de ce qui représente la trace de pratiques effectives sur lesquelles s'appuie le raisonnement du philosophe et qui se trouve susceptible de nous informer sur les fonctions qui étaient celles du prophète. L'extrait en question se situe dans une description physiologique de l'homme où Platon défend l'idée que l'âme humaine a été placée par les dieux dans le thorax et que la division en deux, de ce dernier par le diaphragme, correspond à une séparation des organes entre ceux qui abritent la meilleure portion de l'âme au-dessus de lui et ceux qui en abritent la pire en dessous. Le foie, qui joue ici une fonction liminaire, est présenté comme un organe qui ne participe pas de la réflexion, puisqu'il est situé sous le diaphragme, mais que l'intellect utilise comme un outil pour dompter la partie la plus animale de l'âme. Lorsqu'il n'est pas instrumentalisé par la réflexion, dans le sommeil ou l'état de mania, le foie est présenté comme l'organe de la divination. C'est donc à l'intérieur d'une description physiologique-axiologique, opposant raison et déraison, que s'inscrit notre passage qui vise explicitement à démontrer que les facultés divinatoires sont liées à phrosune anthropine, à la partie déraisonnable de l'homme. Pour ce faire, Platon convoque l'existence de deux figures de la pratique divinatoire, le prophétès et le mantis, ou plus précisément, le manéis, celui qui est dans un état de mania. Cette deuxième figure, qu'il ne faut pas comprendre de manière technique, comme celle du devin, était déjà explorée par le philosophe dans le Phèdre, où elle qualifiait Socrate, qui se trouvait soudain inspiré et utilisait les mêmes termes pour se définir que ceux qu'il appliquait quelques lignes plus loin à l'état de la prophétesse de Delphes et aux prêtresses de Dodone. On retrouve donc ici la distinction entre le prophète et l'agent inspiré, que nous avons déjà constaté au sein des personnels des sanctuaires oraculaires. Celle-ci est d'autant plus assurée par Platon que c'est précisément sur l'existence de ces deux agents distincts que repose son argument sur le caractère irrationnel de la divination. En effet, la finalité du passage est précisément d'exclure une catégorie d'agents des cultes oraculaires de la pratique de la mania pour asseoir le caractère aphron, privé de tout bon sens, de la révélation mantique. L'argument de Platon repose sur un double constat qui aboutit au syllogisme suivant. Il existe des agents de la divination, les prophètes, dont l'activité est de logismo dielestai, analysé au moyen de la raison, les oracles. Or, ceux-ci se trouvent distincts des agents inspirés et n'entrent pas dans un état de mania, utimanes. C'est donc que l'état de mania n'appartient pas au domaine de la raison. Si la conclusion est propre à Platon, les prémices sont posées comme acceptées de manière générale et de notoriété publique. Malgré les abus de langage de certains qui pouvaient amalgamer les noms de prophètes et de devins, vraisemblablement Platon vise ici des poètes tragiques, l'existence de deux activités distinctes n'apparaît pas comme discutable dans cet extrait, qui précise que celle-ci fait même l'objet d'une distribution normative d'un nomos. Même si cela n'est jamais explicité, tout concourt à faire penser que l'état de fait sur lequel il s'appuie était celui qui était en place dans les grands sanctuaires oraculaires du monde grec, puisque la présence de prophètes n'est pas attestée ailleurs. Ce discours platonicien concorde donc avec les observations que nous avons faites plus haut. Reste à comprendre précisément le rôle qu'attribue Platon dans cet extrait aux prophètes. D'un point de vue chronologique, on peut tout d'abord constater que son action n'intervient qu'après que la communication avec le dieu a été établie et l'oracle verbal ou visuel délivré. Les analyses du prophète portent sur « ta retenta anamnestenta », les choses qui ont été dites une fois qu'elles ont été rappelées. L'utilisation du passif empêche de savoir si c'est au prophète lui-même qu'il revient de rapporter les mots qui ont été proférés. Rien ne laisse cependant penser que les mots qui ont été proférés sont ensuite modifiés. Si le prophète peut être l'acteur hypocritesse de l'oracle en le répétant, rien ne nous dit qu'il les aurait alors mis en vers, comme le proposait Gregory Nagy. Il s'agit donc bien pour le prophète d'interpréter des termes dont la forme apparaît comme fixe après l'accomplissement du rite oraculaire et leur énonciation par un agent inspiré. Platon précise également ici quels sont les différents aspects de l'activité herméneutique du prophète et la définit comme une pratique fortement marquée par l'usage de la raison, logismos, passant par des actions cognitives de compréhension, synnoestai, et d'analyse, dielestai, du message divin, afin de l'évaluer, krinein. Cette conceptualisation de l'action du prophète est évidemment à mettre au crédit de Platon qui cherche à montrer à quel point cette dernière est rationnelle. La présentation force donc le trait. Mais elle s'appuie aussi sur deux questions plus simples et moins surprenantes qui résument ce que, d'après le philosophe, on demandait au prophète « Oti opeti semainei », de quelle manière cela signifie quelque chose, et « Otomelontos eparelontos eparontos kaku et agatou », pour qui cela signifie un bien ou un mal présent, passé ou futur. Aux trois activités intellectuelles qui se trouvaient mises en avant par Platon correspondent donc trois préoccupations qui relèvent de ces interrogations, l'une concernant la signification de la prédiction, l'autre demandant un éclaircissement du contexte, la troisième enfin s'intéressant à la dimension propice ou non de la prédiction. Les prérogatives interprétatives du prophète apparaissent donc comme relativement étendues, ce qui n'est pas nécessairement étonnant. Suivant le message que délivrait le dieu, les questions des consultants devaient être de nature assez différente. Pour Platon, c'était au prophète d'y répondre, ce qui en faisait des « tes diagnigmon femes kai fantaseos hypocritai », des interprètes de la parole ou de la vision exprimée au moyen d'énigmes. Le terme « énigmos » demande ici quelques explications. On aurait tort, me semble, de tirer de l'utilisation de ce terme et du rôle d'interprète que Platon attribue au prophète l'idée que tout oracle aurait eu une forme énigmatique ou obscure. Dans son étude sur la théorie et la pratique de l'énigme en Grèce ancienne, Aurélien Béra avance que la plupart du temps, le champ lexical de l'énigme se trouve mobilisé chez Platon pour évoquer l'indication d'un langage allusif. Le concept d'allusion est extrêmement important dans la mesure où il ne suppose en aucun cas que les oracles délivrés par le dieu n'étaient pas clairs, mais permet de penser que ceux-ci pouvaient parfois détenir davantage de signification que celles qui se trouvaient immédiatement accessibles à leur destinataire. L'autre situation célèbre dans laquelle le champ lexical de l'énigme est utilisé par Platon pour qualifier un oracle semble des plus éclairantes. Il s'agit d'un extrait de l'Apologie de Socrate, dans lequel celui-ci rapporte qu'un de ses amis, Chéréphon, aurait demandé au dieu de Delphes « Eisti emu eie sophoteros » si quelqu'un était plus sage que moi, à comprendre Socrate. La question, fermée, reçoit une réponse claire et qui n'appelle, a priori, aucune interprétation. « Medena sophoteron einai » « Personne n'est plus sage ». Pourtant, Socrate s'interroge. Tipote legei oteos, kai tipote anitetai. Que dit alors le dieu et à quoi fait-il allusion? On voit donc que la question de l'interprétation des oracles dépasse celle de leur obscurité ou de leur clarté, puisqu'une réponse claire peut faire l'objet d'une interprétation complexe. C'est du reste ce que semble souligner la distinction platonicienne des activités interprétatives du prophète. Certes, l'interrogation peut porter sur le sens de l'oracle, mais elle peut tout aussi bien concerner son contexte implicite ou le caractère propice ou non d'une prédiction. Ce que Platon ne précise pas cependant, c'est si le recours aux interprétations du prophète se trouvait être systématique et lié au rite oraculaire, ou bien s'il se trouvait facultatif et relevé de l'initiative de chaque consultant. Il ne fait jamais référence non plus à un savoir qui serait celui du prophète. Ce n'est pas sur une épistémée, une science que repose sa légitimité, mais sur sa sophrosyné, son discernement. Ici, le rôle du prophète semble être d'ajouter l'autorité divine à l'autorité divine de l'oracle un surplus de légitimité rationnelle. Le témoignage de Platon sur le rôle du prophète est relativement isolé au sein des sources anciennes. Épictète, bien plus tard, a repris littéralement cette idée dans un entretien qu'il consacre justement aux doctrines de l'Académie et où il critique la participation au rite religieux de ceux qui déclarent que les dieux n'existent pas. Ceux qui parlent ainsi se marient, font des enfants, participent à la vie de la cité et accèdent aux charges de prêtres et de prophètes. Prophètes de qui? De dieux qui n'existent pas? Et ce sont les mêmes qui interrogent la pitié pour entendre des mensonges et qui expliquent les oracles aux autres. L'activité du prophète est ici caricaturée et réduite à deux actions, l'une d'interrogation de la pitié, agent inspiré de Delphes, et l'autre d'interprétation des oracles. Cette deuxième occurrence aurait donc tendance à confirmer le rôle d'interprète que pouvaient avoir les prophètes des oracles grecs, même si sa présence dans une diatribe contre l'Académie rend possible qu'il ne s'agisse ici que d'une réappropriation ironique par Épictète des idées de Platon. Certes, cette association ne se retrouve pas dans des sources décrivant des pratiques religieuses grecques, mais plusieurs sources hellénophones nous la présentent lorsqu'elles décrivent le fonctionnement d'autres cultures. Ainsi, pour expliquer à leur public quelles pouvaient être les prérogatives du Pontifex Maximus à Rome, Denis d'Halicarnasse et Plutarque comparent celui-ci à un exegetes kai prophetes, un interprète et un prophète, dans la mesure où il a pour charge d'expliquer les règlements divins à ceux qui les ignorent. Il est possible que l'utilisation du terme ait été liée également aux prérogatives qu'avaient les pontifes romains en termes d'interprétation de prodiges. Dans le traité sur le démon de Socrate, Plutarque présente également un prophète, cette fois-ci égyptien, Ronoufis, avec lequel Platon s'entretient et auquel le roi Agésilas demande d'interpréter une mystérieuse tablette contenant un oracle indéchiffrable. Néanmoins, les prêtres égyptiens auxquels est souvent associé le titre de prophète à l'époque romaine représentent dans l'imaginaire grec une figure particulière, celle d'un clergé savant qui conserve au plus profond de ses temples des documents porteurs d'une connaissance ancienne des phénomènes religieux. On revient à ta patria, finalement. C'est précisément parce qu'il connaît la langue de Protée, c'est-à-dire une langue perdue, que Ronoufis peut déchiffrer le texte qui lui est confié. Il n'en reste pas moins que lorsqu'il s'agit d'exprimer une réalité dans laquelle un agent du culte se trouve dans une position d'interprète, ce n'est pas le terme de hiéros que l'on trouve utilisé pour parler de ces prêtres égyptiens, mais celui de prophétesse. Le témoignage platonicien, aussi biaisé soit-il par les théories philosophiques de son auteur, apparaît donc comme un bon signe que les prophètes pouvaient avoir au sein des sanctuaires oraculaires une fonction d'herméneute des oracles. Celle-ci ne devait pas pour autant apparaître comme centrale dans l'exercice de la fonction et n'était sans doute pas assumée par le prophète dans tous les sanctuaires oraculaires. Dans sa satire sur l'oracle d'Abonoteikos, Lucien, qui souligne que les réponses rendues par Alexandre ne brillaient pas toujours par leur clarté, insiste bien sur la présence d'exégétaï, d'interprètes extérieurs qui se trouvaient chargés de donner sens aux paroles du dieu dans le sanctuaire et en tirer en dehors du rite lui-même des revenus considérables. Mais dans la mesure où Lucien opère une satire, on ne saurait dire s'il attaque Alexandre pour ne pas savoir faire ce que doit faire un prophète, c'est-à-dire interpréter les oracles, ou si ce n'était donc pas au prophète qu'il revenait d'interpréter les mots du dieu Glycon dans ce sanctuaire. Soulignons du reste que les deux idées ne sont pas contradictoires. Il pouvait exister plusieurs niveaux d'interprétation qui chacun avait leur propre degré d'autorité. Les mentions de la fonction de prophète dans les sources épigraphiques ont beau ne pas être rares, elles n'apportent qu'assez peu d'informations sur le rôle que ce dernier pouvait jouer à l'intérieur du rite oraculaire, ce qui n'est somme toute qu'assez peu étonnant. Elles n'en permettent pas moins de confirmer l'autorité que pouvait avoir le personnage dans le rite antique et en dehors, quand il est le premier à être notamment indiqué dans des listes. À l'instar de la norme rituelle de Démétrias concernant le cérémonial de l'oracle d'Apollon Coropaios, la plupart de ces normes ne font qu'évoquer de manière allusive le cœur des rites derrière l'expression « kata ta patria ». C'est donc moins dans des textes religieux normatifs que dans des textes honorifiques ou mémoriels que l'on retrouve le titre de prophétesse. Dans certaines cités, la charge pouvait s'accompagner d'un prestige très réel qui explique que le prophète puisse apparaître comme un éponyme ou un faux éponyme de la cité. Les informations indirectes sur la fonction du prophète que peuvent nous fournir ces sources semblent se limiter à marquer l'importance des personnages. Elles n'en sont pas moins essentielles pour comprendre quel genre de personne pouvait être choisi pour remplir ces fonctions. Les raisons pour lesquelles les prophètes se trouvaient honorés par des inscriptions varient d'un sanctuaire à l'autre. À Didyme, chacun d'entre eux était gratifié, à la sortie de sa charge, annuelle, d'une inscription qui commémorait son passage à la tête de l'institution. Ces textes précisaient tous les honneurs qu'ils avaient pu recevoir, les circonstances de leur élévation à ce poste quand elles étaient flatteuses, et le cas échéant, les dépenses extraordinaires qu'ils avaient pu réaliser au sein de ce qui s'apparente à une véritable liturgie. Aucune des nombreuses inscriptions retrouvées dans le sanctuaire ne mentionne cependant la place que le prophète pouvait avoir exactement dans le rite oraculaire. La situation est la même pour le sanctuaire oraculaire d'Apollon d'Eriadiotès à Argos, où la seule action que l'on connaisse des promanties consiste en la supervision, avec les secrétaires des dieux, de travaux de réfection du sanctuaire. C'est dans les deux cas pour leur capacité à financer le culte que les porte-paroles des dieux sont honorés. La responsabilité des prophètes ne se limitait cependant pas toujours au cadre du sanctuaire de la divinité à laquelle ils étaient attachés, et on retrouve plusieurs cas où ceux-ci assument une charge d'ambassadeur de leur cité. À la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, un décret d'Oropos nous apprend que ten polin akrafieion apostelae presbetas tres sandras tous dialexumenus meta tu ireos kai tu prophetu prostas poleis tas en te beosia. La cité d'Akraifia a envoyé aux cités de Béotie 3 ambassadeurs accompagnés du prêtre et du prophète pour des pourparlers au sujet des sacrifices qui doivent se faire pour le concours des Ptoia. Les 2 représentants du clergé apparaissent ici comme les membres de droit d'une ambassade sacrée visant à obtenir que les cités participent aux concours locaux en augmentant leur contribution. C'est donc parce qu'ils apparaissent comme les dépositaires d'une autorité religieuse qu'ils accompagnent une ambassade visant à augmenter les dépenses des cités clientes de l'oracle. Un siècle plus tard, le prophète d'Apollon Ptoios, Pythion fils d'Athanaios, citoyen d'Akraifia, est honoré par plusieurs cités béotiennes, notamment Orchomène, Thisbé et Thespie, pour le rôle d'ambassadeur et de théor qu'il a joué dans l'acceptation par ces dernières des nouvelles modalités du concours d'Eptoia. Cette fois-ci, cependant, il se trouve présenté comme l'un des 2 ambassadeurs, presbytai, à part entière, et n'est plus accompagné d'un prêtre. Si la question motivant l'ambassade de Pythion se trouvait être, encore une fois, avant tout religieuse, puisqu'il s'agissait de la mise en place des concours cultuels d'Eptoia, ce n'en est pas moins pour ses qualités de représentation de la cité à l'extérieur que le prophète se trouve ici honoré. Il est intéressant de constater qu'à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, ce n'est pas le prêtre d'Apollon, mais bien son prophète, qui a pour charge d'incarner la légitimité religieuse nécessaire à l'acceptation par les autres cités béotiennes d'une participation à ces nouveaux concours et de l'augmentation de leur contribution à leur organisation. On trouve également à l'époque impériale, au IIe et IIIe siècle de notre ère, dans les mémoriaux de délégation de Claros, le cas intéressant du prophète d'Apollon Pythien, de la cité de Laodicée du Lycos. Cette charge annuelle était remplie par un jeune garçon, le plus souvent accompagné par son père, dans le cadre de l'envoi de cœur au dieu de Colophon. Comme le soulignait Louis Robert, il s'agissait vraisemblablement d'une liturgie qui se trouvait financée par la famille du jeune homme. Il ajoutait « Nous voyons le jeune prophète et ses acolytes non point présider à des oracles dans le sanctuaire de son dieu Apollon Pythien, mais aller quérir régulièrement ceux de l'Apollon de Claros. Cela ne semble guère compatible avec la tenue régulière d'un oracle à la Odyssée. Le prophète d'Apollon Pythien sert en somme d'intermédiaire pour la divination. Il va quérir, rapporter et communiquer les oracles d'Apollon Clarien. » Il y aurait donc eu dans l'ambassade de Laodicée du Lycos un redoublement de l'interface qu'incarnait le prophète entre la cité qui consultait et le dieu de Claros. La question adressée à la divinité et sa réponse serait donc successivement passée par le prophète du sanctuaire, puis celui qu'envoyait la cité de Carie. La démultiplication d'une même fonction n'a en soi rien d'incongru et montrerait bien quelle était la place des prophètes dans la transmission de la parole divine. Il n'est donc pas difficile de souscrire à la reconstitution de Louis Robert. Faut-il cependant aller jusqu'à penser que ces consultations faites par un prophète dans le sanctuaire d'un dieu qui n'était pas le sien puissent justifier l'idée qu'il n'y avait pas de rite oraculaire à la Odyssée ? Un élément empêche d'être aussi affirmatif. L'épiclèse d'Apollon, dont ces jeunes garçons sont les porte-parole, est bien celui de Pythios, et non celui de Clarios. Il se rattache donc bien à un culte local, dont Louis Robert lui-même a souligné la vivacité. Il est vrai que si cette fonction a été créée ad hoc, ces jeunes ambassadeurs n'auraient pas pu porter le titre de prophète d'Apollon Clarien, puisqu'il s'agissait d'une fonction qui existait déjà dans le sanctuaire vers lequel ils étaient envoyés. Mais d'une part, rien n'interdisait dans la religion grecque aux prêtres d'un dieu de consulter une divinité différente de celle qu'ils servaient. Et nous ignorons tout, d'autre part, des liens qui pouvaient relier historiquement le culte d'Apollon Pythios et d'Apollon Clarios et justifier ces délégations annuelles. Rien ne permet donc d'affirmer que la charge du prophète de Laodicée se limitait aux ambassades sacrées. Mais si tel était le cas, elle matérialiserait un peu plus cette fonction d'interface officielle de la consultation que l'on a pu voir plus haut. Loin de se limiter au cadre des consultations mantiques, la charge de prophète pouvait donc être associée à des missions de représentation de la cité, religieuse ou non, à l'extérieur du sanctuaire du dieu auquel l'agent se trouvait attaché et qui lui permettait d'incarner une certaine autorité. Que reste-t-il pour le prophète dans le rite oraculaire ? Le rôle des prophètes dans le rite oraculaire apparaît donc comme bien complexe à établir, moins parce qu'il a pu faire l'objet de variations locales dans les différents sanctuaires du monde grec, que parce que son rôle devait apparaître comme allant de soi pour les anciens, et que nos sources ne le closent par conséquent que très peu. Si certains prophètes, comme ceux de Didyme et Alexandre à Abonoteikos, ont pu absorber les prérogatives des prêtres, les deux fonctions apparaissent généralement comme distinctes, que ce soit à Delphes, Claros, à Craifia ou encore à Argos. Cette distinction n'empêche cependant pas que, dans certaines circonstances précises, les deux charges pouvaient être cumulées par un seul individu, comme c'était le cas lors de la première année de la prêtrise d'Apollon à Claros, pour ceux qui n'auraient jamais été prophètes auparavant. De la même manière, le prophète ne saurait, on l'a vu, être assimilé à l'agent inspiré des sanctuaires oraculaires. Les actes rituels précis qu'accomplissaient les prophètes nous échappent. Plutarque, dans ses questions grecques, reste très évasif sur leur contenu, quand il explique que les osioi de Delphes, tapola metaton propheton drosin kai sunirogursin, accomplissent la plupart des actes sacrés avec les prophètes et assurent avec eux le déroulement du rite. Néanmoins, deux pôles se mettent en place. Du point de vue de la communication, le prophète semble jouer un rôle d'interface entre le consultant et l'agent inspiré. La question qui se pose alors est de savoir, pour reprendre la distinction de Bruno Latour, s'il jouait dans la transmission de ce message un rôle d'intermédiaire, qui ne modifie en rien le message, ou de médiateur, qui en transformait la forme, voire le contenu. En l'état de la documentation, on ne peut apporter ici de réponse stricte, mais on doit souligner qu'il n'est pas nécessaire de penser que la répétition de l'oracle par le prophète est eue à en transformer le fond ou la forme. La simple proclamation par cet agent cultuel pouvait très bien se justifier en créant, de manière aussi artificielle que ce puisse nous paraître, un pont entre le consultant et l'agent habité par le dieu dans un état d'enthousiasme. À défaut de conférer à l'oracle l'autorité de l'auteur, il lui aurait conféré celle de l'autorisation institutionnelle. Nul n'est besoin de se lancer dans une théorie d'oracle versifiée par le prophète. Elle ne répond in fine qu'à l'idée reçue d'une incapacité des agents inspirés, souvent féminins, à maîtriser la versification. De même, on doit se méfier de la tendance contemporaine à pathologiser l'état d'enthousiasme qui s'appuie sur les théories matérialistes antiques pour affirmer que l'agent inspiré tiendrait des propos incohérents que le prophète mettrait ensuite en ordre. Dans les deux cas, les fonctions que l'on attribue au prophète servent à résoudre les problèmes auxquels se heurtent les historiens, mais ne reposent sur aucune source concrète. Rien n'empêche pourtant d'imaginer que le simple fait de s'adresser à un dieu perçu comme présent dans le corps de l'inspiré n'est plus à lui seul suffire à justifier la présence du prophète dans l'acte de langage oraculaire, parce qu'il n'aurait pas été permis au consultant d'établir un contact direct avec le divin, ni que le prophète n'ait eu in fine un rôle de proclamation légitimante de l'oracle, n'eût-il fait que le répéter. Difficile également de savoir quand, comment et pourquoi les prophètes pouvaient être sollicités pour interpréter la parole divine, comme l'avance Platon. L'exégèse même à laquelle il fait allusion semble toucher des domaines assez divers, comme la contextualisation ou l'appréciation du caractère propice ou non d'un oracle, montrant que l'adjonction de sens à la parole du dieu pouvait prendre des formes assez diverses. Cependant, aucune de nos sources ne vient relayer cette construction rationaliste qui oppose les deux agents que l'on trouvait collaborant dans les grands sanctuaires oraculaires du monde grec. Platon lui-même ne nous dit pas explicitement que ces activités avaient bien lieu au cours de rite mantique. Cela ne nous empêche pas d'imaginer que les prophètes ont pu exprimer des avis après les consultations et que ceux-ci se trouvaient marqués d'une certaine autorité religieuse. Mais comme le montre l'oracle rendu à Socrate, un énoncé peut rester obscur, même quand il est limpide. L'interprétation d'un prophète n'aurait donc pas empêché d'autres interprétations subséquentes de la part de professionnels de la divination, comme les chrismologues ou les assemblées politiques. Finalement, on ne peut jamais qu'affirmer que la présence du prophète se trouvait nécessaire à la bonne tenue de l'oracle. Guidait-il le rite? Le supervisait-il? Le légitimait-il? C'est bien possible, et la notion de performativité peut ainsi nous aider à lui attribuer un rôle. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces constructions, aussi érudites soient-elles, ne sont jamais que des moyens de combler le silence de nos sources, sans renoncer à prendre en compte un agent dont toutes s'accordent à dire qu'il remplissait un rôle de premier plan dans l'interrogation des dieux. L'autorité propre au prophète et la manière dont elle légitimait la parole divine reste donc encore aujourd'hui affaire d'interprétation. Je vous remercie.